L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Jacques Moreau-Bérillon, immobile, ne bouge plus. Une minuscule goutte de sueur, presque imperceptible, dévale le long de son dos. L'instant est suspendu, son souffle s'est ralenti. Il manque de perdre pied, se ressaisit, réajuste son esprit lorsqu'il entend 830 000 euros. Puis il ne se souvient plus très bien. Tout est allé trop vite, mais l'homme revoit nettement le marteau s'abattre sur la table. Il est 17h23, ce 4 juin 2023, lorsqu'un coup de marteau adjudique à 1 250 000 euros. Le tableau de Jacques Moreau-Bérillon, battant le record du tableau le plus cher de l'histoire de la peinture féminine moyenâgeuse. Un tableau mystérieux, presque oublié, et qui renferme bien des mystères. Il est donc 17h23, ce 4 juin 2023, et c'est l'heure H de mon histoire. Cheveux poivre et sel encore abondants, moustaches bien fournies, lunettes discrètes. Jacques Moreau-Bérillon, un certain embonpoint, doit avoir la septantaine passée. Quelques minutes plus tôt, comme tous les spectateurs, anonymes ou amateurs d'art, il a pris place à l'avant de la salle. Les professionnels, eux, choisissent le fond. De là, ils observent mieux les mouvements de l'assemblée. Depuis quelques minutes, un climat frénétique règne dans le salon du château d'Artigny, qui accueille en ce mois de juin 2023 la 35e vente aux enchères de la célèbre maison Rouillac. Et pour Jacques Moreau-Bérillon, c'est une véritable tornade. Son tableau de famille, celui devant lequel enfant, il jouait aux soldats de plomb, celui sur lequel ses propres enfants ont joué aux fléchettes. Son tableau est mis en vente et les chiffres s'affolent. Inimaginable ! Il y a encore quelques instants, Jacques ne présumait pas une seule seconde ce qui est en train de se dérouler dans cette salle de château en Touraine. Les chiffres s'envolent, 100 000 euros. « 200 000 !» crie le commissaire-priseur. Jacques n'en revient pas. « 300 000 à droite !» La prisée, l'estimation du tableau, était fixée à 80 000 euros. Une petite fortune déjà pour Jacques qui, abasourdi, assiste à l'envol des chiffres. En quelques secondes à peine, il entend « 400 000 !»« 400 000 euros !» articule le commissaire-priseur. Jacques est étourdi. 600 000 intervient une nouvelle voix sonore. 600 000 dans le fond de la salle, répète le commissaire en appuyant chaque syllabe. Sur la droite, quelques tables aux nappes blanches. Une poignée d'hommes et de femmes en costume sombre, le visage concentré. Au téléphone, on parle à voix basse, mais le rythme est rapide, nerveux. Quelques acquéreurs anonymes en ligne relèvent les enchères. Un regard appuyé s'échange. 750 000 par téléphone, soutient le commissaire français. Jacques Moreau-Bérillon ne bouge plus. Une minuscule goutte de sueur, presque imperceptible, dévale le long de son dos. Son souffle est court. Jacques est pris dans un tourbillon, mais se ressaisit quelques instants. Il entend 830 000 euros. Puis, tout va très vite. Le septantenaire revoit nettement le marteau s'abattre sur la table. 1 250 000 euros. C'est bien le montant que Jacques Moreau-Bérillon a cru entendre. Après une évaluation à 80 000 euros, la vente du tableau de famille de Jacques s'est envolée en quelques instants à peine, jusqu'à atteindre un record mondial, celui du tableau le plus cher de l'histoire féminine de la peinture moyenâgeuse. À l'issue de cette vente historique, dans l'élégant jardin du château d'Artigny, Philippe et Aymeric Rouillac, père et fils, commissaire-priseur de la célèbre maison Rouillac, pose fièrement de part et d'autre de Jacques Moreau-Bérillon, qui ne cache pas sa joie. Au milieu du petit groupe trône sur un chevalet le tableau, un cadre doré, une cinquantaine de centimètres de chaque côté tout au plus. Le tableau est petit et le portrait peint bien étrange, mystérieux même. Ce 4 juin 2023, la presse s'est déplacée en nombre. Il faut dire qu'à l'annonce de la vente Rouillac, amateurs d'art et collectionneurs du monde entier se sont pressés en Touraine. Dans la petite bourgade de Montbazon, d'habitude calme, l'effervescence est palpable. Pour sa 35e vente, la maison Rouillac a choisi le cadre prestigieux du château d'Artigny, à quelques kilomètres à peine de Montbazon. Le décor est enchanteur. Une bâtisse blanche, symétrique, imposante. Un gazon impeccablement tondu. Au pied du château, un jardin à la française agrémenté d'une pièce d'eau où s'amuse Léger de sa petite fontaine. De l'autre côté, des bois qui se perdent dans la campagne de Montbazon. Si le château d'Artigny, ses salons, son vestibule élégant et son grand escalier de pierre accueillent désormais un hôtel de prestige et un spa, autrefois, il était la propriété de l'industriel le plus fortuné de France. Un certain François Coty, considéré à l'aube du XXe siècle comme le père de l'industrie moderne de la parfumerie. C'est à la veille de la Première Guerre mondiale qu'il fit l'acquisition de ce domaine de près de 600 hectares. Le krach boursier de 1929 fragilisa bientôt sa fortune. Son train de vie princier, sa prodigalité et un divorce lui coûtèrent son empire. Quelques années après, le château et ses remarquables pièces d'art furent vendus pour devenir bien plus tard cet hôtel fleuron de la région. Ainsi donc, en ce mois de juin 2023, amateurs d'art, experts et collectionneurs se sont donné rendez-vous dans cette vaste demeure de Touraine pour dénicher la pièce rare ou exceptionnelle proposée par la très renommée Maison Rouillac. Les jours précédant la vente, chacun a pu admirer les lots mis aux enchères pour ce rendez-vous prestigieux du marché de l'art français. Et la Maison Rouillac s'est surpassée. Quelques objets originaux, statuettes, bronzes et bijoux, un manuscrit d'Alfred Jarry, le célèbre poète et dramaturge français qui aurait inspiré les surréalistes. Juste à côté, à l'abri d'une vitrine de la grande galerie du château, un gobelet d'apothicaire. Seul l'œil avisé aura identifié les armes royales de Louis XIV, faisant de l'objet l'un des plus anciens témoignages français de la porcelaine dorée et l'une des pépites de la vente Rouillac. Un peu plus loin, exposée dans le parc, une Citroën de chevaux en bois, unique au monde. Griffonnant à la va-vite sur son calepin, un journaliste local observe dubitatif la voiture et, à l'affût de quelques informations supplémentaires, écoute le commissaire-priseur s'enorgueillir. Il s'agit, une œuvre d'art made in France. Une carrosserie légendaire en bois précieux, de noyer, de pommier, de poirier, qui a nécessité 5000 heures de travail. Et il poursuit. La voiture roule parfaitement. C'est bien cela. Le succès d'une vente aux enchères réussie. C'est le talent de mêler originalité et prestige des lots. Et dans cet équilibre pointu, la maison Rouillac est passée maître dans l'art. À l'aube de cette 35e garden party, les deux commissaires Rouillac, père et fils, jubilent. Cela fait des jours qu'ils gardent secrète la pièce maîtresse de la vente. Car ce 4 juin, ce n'est pas le petit tableau de 50 cm proposé par un septantenaire anonyme qui attire l'attention de notre journaliste. Ce 4 juin 2023, l'œuvre qui polarise tous les regards est un nu absolument remarquable. Allongée sur un drap blanc, la grande baigneuse, peinte en 1869 par Gustave Courbet, offre des courbes au réalisme vertigineux. Des rondeurs généreuses et un corps lascif à la peau de porcelaine signent bien la patte de l'artiste. En bas de l'immense tableau, cela ne fait aucun doute, Gustave Courbet apparaît en toutes lettres. Il s'agit bien de la signature du maître. Le même qui, 3 ans plus tôt, livrait à la postérité le tableau le plus sulfureux de l'histoire de la peinture. Sous les coups de pinceau, l'artiste a peint ce que personne jusqu'alors n'avait osé envisager. Le sexe nu d'une femme apparaissant sur l'ensemble d'un tableau intitulé « L'origine du monde ». Le scandale à l'époque est sans précédent. Pourtant, bien des années plus tard, incarnant notre humanité, l'œuvre deviendra universelle. Si ce tableau n'est certes pas le propos qui nous occupe aujourd'hui, permettez-moi un détour d'intérêt historique, tant ce tableau éveilla tout au long de l'histoire les scandales ou les fantasmes les plus inavoués. C'est un certain Khalil Bey, un flamboyant diplomate turco-égyptien, connu du tout Paris, qui commanda la toile. L'homme est sensible au réalisme, ce nouveau courant artistique dont tout le monde parle dans le microcosme parisien. Le diplomate apprécie cette réalité brute, présentée sans phare par les artistes en quête de nouvelles lignes réalistes. Alors, pour enrichir sa collection de toiles dédiées au corps de la femme, l'homme passe commande auprès du maître. Mais lorsque l'Égyptien découvre son tableau, c'est évidemment la stupéfaction. Le diplomate garde d'abord le silence. Il sait que le peintre, légitimement, guette sa réaction. Alors lentement, sans manifester la moindre expression, il recule d'abord de quelques pas, puis, lissant sa barbe, de ses yeux profonds, scrute la toile. Le silence est pesant, prégnant. Gustave Courbet ne se départit pas de son air bonhomme. Goguenard, il attend la réaction de l'Égyptien. Le diplomate reste songeur. Réalisme et forme d'art brut? Pornographie? Les principes se bousculent. L'œuvre, certes, est proprement scandaleuse, mais elle anime chez le collectionneur une certaine délectation. L'œuvre l'embarrasse, mais il en est certain, elle est remarquable. Elle est un tournant, une œuvre majeure dans l'histoire de l'art. Elle marquera notre humanité. Khalil Bey salue Gustave Courbet, l'artiste provocateur, aimant à tester les limites, s'enorgueillit de sa victoire. Dès le lendemain, le tableau sera livré. Mais Khalil Bey est un homme de diplomatie, prudent. Par précaution, il décide de dissimuler la toile sous un autre tableau. Il en est certain, pour l'heure, seuls quelques initiés verront l'œuvre du maître. Quelques années plus tard, bien plus tard, la vision de cet Égyptien amoureux des femmes s'avérera incontestable. L'origine du monde, considérée comme une œuvre majeure de notre patrimoine artistique, trouvera sa place dans l'un des plus grands musées français, au Musée d'Orsay. Voilà donc en ce jour de juin 2023, le même artiste Gustave Courbet représenté lors de l'avant Trouillac avec un nu imposant. Et cette toile intitulée « La grande baigneuse » attire la presse mondiale. Pourtant, malgré toute cette agitation, ce n'est pas ce tableau qui va marquer l'avant Trouillac, mais un petit portrait bien étrange, celui d'un animal, ou peut-être serait-ce celui d'un enfant. Dans l'assemblée, ce fameux jour de la vente au château d'Artigny, le montant record obtenu pour la petite toile attire toute l'attention sur le tableau, passé jusqu'alors presque inaperçu. On s'interroge. Mais qu'est-ce donc? Est-ce un animal? Non, c'est plutôt un enfant, non? Conclut un autre, sur un ton assertif. Les yeux, c'est certain, expriment la bienveillance. Mais le visage est couvert de poils longs. Et étonnamment, cette petite chose velue porte des vêtements. Une robe de soie et un diadème fleuri à la mode des cours royales du XVIe siècle. Le tableau, resté jusqu'alors dans le giron familial, aurait appartenu au grand-oncle de Jacques Moreau-Bérillon. Son aïeul, un célèbre médecin psychiatre connu pour ses travaux sur l'hypnose, se consacrait alors à une parution intitulée « Études psychologiques et sociologiques des femmes à barbe ». Et c'est précisément suite à ce travail important qu'il fit l'acquisition du tableau. Jacques se souvient parfaitement de ce portrait étrange alors qu'enfant, avec ses parents, il rendait visite à son grand-oncle. Il revoit le long couloir de l'appartement parisien où, assis par terre, il alignait des armées de petits soldats de plomb pendant que ses parents discutaient au salon. Il se souvient parfaitement des tons chauds du grand tapis d'Aubusson. La pièce, baignée de lumière et ses grandes fenêtres s'ouvrant sur les arbres du parc Monceau. Il se revoit caché derrière les rideaux à observer les jours de pluie, les gouttes d'eau dessinant de minuscules ruisseaux imaginaires dévalant le long des carreaux. Le nez collé à la fenêtre, il suivait leur chemin jusqu'aux avaloirs de la rue. De minuscules torrents engloutis pour toujours par de grandes bouches métalliques dans les profondeurs de la terre. Où il devait avoir 6 ans, 7 ans tout au plus. Oui. Son grand-oncle lui permettait d'ouvrir le secrétaire du salon et d'y prendre la petite boîte en bois qui abritait en vrac les soldats de plomb. Pendant des heures, enivré par l'odeur de la cire d'abeille, des parquets fraîchement cirés, il alignait son armée de trésors. À l'heure du goûter, quittant le salon, sa grande tante apparaissait comme par magie pour lui apporter une tranche de ce cake à l'orange qu'il aimait tant. Conquis par cette liberté nouvelle, à même le sol, sur son carré de parquet, Jacques s'asseyait aux côtés de ses troupes et croquait heureux et gourmand dans le gâteau moelleux. C'est là, dans ces instants qui marquent une enfance sans qu'on s'en aperçoive, que Jacques, invariablement, revenait au tableau. Assis, blotti contre son armée de plomb en pagaille, Jacques apprivoisait la toile, en observait les moindres détails. Ses grands yeux d'enfant, mi-farouches, mi-curieux, analysaient le portrait étrange et cherchaient, sans réponse, à en percer les mystères. Était-ce un animal? Un enfant? Il n'aurait pas pu le dire. Mais ce qui est certain, c'est que Jacques Moreau-Bérillon, petit garçon, pressentait intuitivement que le tableau n'avait pas encore livré tous ses secrets. Pour bien comprendre ce mystérieux tableau, il faut se plonger au cœur du XVIe siècle, alors que des hommes en uniforme, usant de leur force, referment dans un bruit sourd le verrou d'une cage aux barreaux épais. À l'intérieur, un enfant, terrorisé, incrédule. Il s'agrippe, s'accroche désespérément à ce qu'il peut, crie de toutes ses forces, hurle sa peur, sa colère, sa détresse, son impuissance. Il n'a que 10 ans. Bien plus tard, il s'est rappelé le bruit sourd du verrou qui claque, puis le silence. Peut-être a-t-il perdu connaissance, peut-être a-t-il été assommé, il ne sait pas, il ne sait plus. Il se souvient avoir senti la chaleur du soleil réchauffer sa joue, brûler ses paupières. Il a relevé la tête, refermé les yeux aussitôt. Puis, luttant contre l'éblouissement, il a tenté de se redresser. S'est assis doucement, en repliant ses genoux entre ses bras, en se blottissant dans un coin de sa cage. Derrière les barreaux qui l'emportent, impuissant, prisonnier, vers un destin inconnu, il regarde son île s'éloigner. Nous sommes en 1557. Depuis la rade de Tenerife, un bateau aux armoiries royales vient de lever l'ancre. Il a mis le cap vers le nord. Les grandes voiles progressent sur l'horizon, laissant dans leur sillage, avant de disparaître au loin, l'archipel des Canaries. Sur l'île principale, au pied du volcan Tede, une mère hurle sa douleur. Elle a couru pieds nus, haletante, en sueur, sur le sentier de terre rouge menant au volcan. Elle sait que de là, grimpant, s'agrippant aux plus hautes branches d'un dragonnier, elle pourra apercevoir, une dernière fois, ce bateau qui vient de lui enlever son fils. Petrus Gonsalves, son enfant, son petit, son amour si singulier. Ce que cette maman sait intuitivement, c'est que Petrus, son fils de 10 ans, lui est volé, victime de sa particularité. Ce qu'elle ignore au cœur de sa douleur, en ce jour de l'an 1557, c'est que son enfant vient d'entrer dans l'histoire de l'humanité et que dans quelques jours, il sera offert au roi de France. Quelques jours plus tôt, le navire royal jetait l'ancre dans la rade de Tenerife. Après des mois de navigation à avoir affronté les tempêtes, les vents incertains, le passage du cap de Bonne-Espérance et ces vents d'ouest redoutés, après avoir profité des bienfaits des alizés pour remonter les côtes africaines, enfin, cette pause souveraine permet de recharger les réserves d'eau et de nourriture. Elle offre aussi à l'équipage, épuisé, malade parfois, l'occasion de trouver un peu de répit. Et puis, cette dernière étape de retour d'expédition est aussi l'occasion de charger de canne à sucre les cales déjà remplies d'épices, de tissus précieux, de soieries et de thé. Rapporter des Indes pour satisfaire le bon plaisir des souverains. Sur cette terre insulaire où seuls quelques bateaux venus de contrées lointaines apportent avec eux un peu du reste du monde, les secrets et les mystères sont bien gardés. Alors, lorsque le maître d'équipage découvre par hasard, tapis dans l'ombre, une étrange et frêle créature, mi-bête, mi-enfant, et qu'il décide de l'offrir au souverain comme curiosité, c'est un peu l'âme de l'île qui est volée. Sur le trône de France, Henri II, duc d'Orléans. Le jeune prince vient d'être couronné. Et c'est la cathédrale de Reims, lieu de sacre de la quasi-totalité des rois de France, qui a accueilli avec faste le couronnement. Il faut dire que l'édifice a été conçu à cette fin. 2303 statues, 120 mètres de long, plus de 6000 mètres carrés, l'édifice gothique est un site majeur destiné à accueillir les rois de France. Et pas seulement. La cathédrale est conçue pour accueillir la foule. Elle s'est massée nombreuse en cette fin de mois de juillet, particulièrement chaud, pour célébrer le nouveau roi. Les plus chanceux à l'abri profitent de la fraîcheur de l'édifice. D'autres attendent sur le perron pour tenter d'apercevoir, ne fût-ce qu'un instant, celui qu'on dit gentilhomme. Henri II a presque 30 ans. Il succède à son père François Ier. Mais une oreille plus attentive entendra les murmures et les craintes évoquer le manque de préparation de celui qu'on ne s'attendait pas à voir régner. Rien, jusqu'à la mort de son frère aîné, ne prédisposait le jeune prince à monter sur le trône. Mais on le dit bon. Son regard est ténébreux. Plus d'une jeune fille a rêvé de ce prince dont on a su longtemps qu'il aurait les honneurs de la cour sans en supporter les charges. Quelques années plus tôt, sans grande passion, Henri a épousé sous l'autorité de son père la richissime Catherine de Médicis, l'héritière des Médicis de Florence. Orpheline, la jeune femme a été élevée sous l'aile de son cousin, le pape Clément VII. Plus que de parler d'amour, ce mariage crée surtout une précieuse alliance dans le cadre des guerres d'Italie qui animent les deux pays entre le XVe et le XVIe siècle. Oh, Catherine n'est pas très jolie. Sa silhouette un peu lourde. Il faut dire la vérité. Elle ne ravit pas le cœur de son époux. Et il se fait surtout qu'Henri II aime une autre femme. Une femme que le souverain connaît depuis son plus jeune âge et qui longtemps a veillé sur lui. Diane de Poitiers est veuve. Personne ne s'est aperçu que sa présence auprès du jeune prince, que cet amour qu'on évoque comme maternel, s'est transformé en amour charnel. Comment lui résister ? Diane de Poitiers est très belle. Elle est sans conteste la plus belle femme du royaume. Ses cheveux blonds vénitiens, sa silhouette longue et fine, son élégance, son assurance, son intelligence et son influence, tout chez elle est irrésistible. Et le jeune prince y succombe. Henri idolâtre littéralement la belle Diane. Catherine de Médicis ne s'attendait pas à une telle rivale. Impuissante, la reine est dépossédée de son rôle d'épouse. De plus, le couple peine à donner un héritier. Mais qu'à cela ne tienne. Pour conquérir son mari, Catherine déploie ses talents. Elle encourage Henri II au mécénat, provoque une rencontre avec Léonard de Vinci, encourage tout ce qui est italien et crée autour du souverain un climat intellectuel et artistique, rivalisant bientôt avec les plus grandes cours d'Italie. À ses côtés, et avec son influence, le roi Henri II devient le grand souverain de la Renaissance. Le couple royal fait rayonner la France. Est-ce la souveraine, en mal d'enfant, qui pousse Henri II à accepter ce cadeau étrange ramené d'expédition depuis les îles Canaries? Nous l'ignorons. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque le jeune souverain découvre la cage, loin d'être effrayé, il s'émerveille de la petite bête sauvage tapie derrière les barreaux. Et ce qui se passe à cet instant est saisissant. Dans cette époque lointaine, c'est l'humanité qui va l'emporter. Au-delà du visage et des petites mains couvertes de poils, tel un animal sauvage et étrange, au milieu de cette toison, le jeune Henri II reconnaît le cœur et l'âme d'un enfant aux traits humains. Les yeux de Petrus Gonsalvus ont croisé ceux du jeune monarque. L'enfant, plutôt que de manifester sa crainte, y voit son salut. Il tend la main au souverain. Et dans le même élan, Henri II saisit la main de l'enfant. À cet instant, et jusqu'à la mort du souverain, l'union de ces deux cœurs se scellera pour toujours d'une amitié indéfectible. Le roi de France devient le protecteur de Petrus Gonsalvus. Le souverain exige qu'on habille Petrus comme un noble. Couturiers et marchands d'étoffes se succèdent au palais. Puis, les médecins défilent, les meilleurs de la cour. Et le souverain ne s'arrête pas là. Il mobilise autour de Petrus les meilleurs précepteurs. En quelques années, Petrus devient l'un des plus lettrés de la cour de France. L'érudition de Petrus, son intelligence et la place qu'il occupe désormais auprès du souverain attisent les jalousies et les quolibets qui vont bon train parmi les mauvaises langues et les commères. Et si certains persistent à nommer Petrus de « sauvage de la cour », la loyauté de l'enfant, ramené captif des îles pour son souverain, sera sans borne. Lorsqu'en 1559, le roi Henri II décède, Catherine de Médicis assure la régence. C'est elle qui, naturellement, devient la protectrice de Petrus. Mais Catherine n'est pas aussi tendre que son époux. Ses amours déçus, sa jalousie envers Diane, son rôle d'épouse bafouée, ont fait d'elle une épouse amère. Elle témoigne de peu d'empathie pour Pétrus, qu'elle considère tout au plus comme une originalité vivant à la cour. Bien plus que d'exprimer de la compassion pour l'ami de son époux défunt, Catherine, poussée par son insatiable goût de la connaissance, va utiliser Pétrus comme objet d'expérimentation. Il est ordonné à Gonsalvus de se marier. À la cour, cette annonce tombe comme un véritable coup de tonnerre. Qui sera choisi ? Une servante ? Une paysanne ? Une jeune femme de la cour ? Une noble ? Partout, à voix basse, on s'interroge. Et une question, toujours la même, revient sans cesse. Pétrus transmettra-t-il son étrange singularité à sa descendance ? C'est ainsi que 10 ans après son arrivée des îles, Pétrus, âgé d'une 20aine d'années, épouse une jeune femme de cour, Catherine Raffelin. Et imaginez le spectacle. Cet homme, érudit, éduqué, jeune, à la belle stature, en costume de cour, au visage poilu comme celui d'un animal, épousant une jeune fille belle et préparée pour ce jour. Y reconnaissez-vous les personnages du conte de la Belle et la Bête ? Y voyez-vous les images d'un film aux couleurs délavées signé en 1946 par Jean Cocteau et qui cachait sous les traits de la bête flamboyante la beauté de l'acteur Jean Marais ? La Belle et la Bête. Car c'est bien de ce conte qu'il s'agit lorsqu'on évoque la vie de Pétrus Gonsalvus. Une bête et une belle qui alimentèrent durant des siècles l'imaginaire de générations entières à travers un conte que jamais nous n'avons envisagé partiellement réel. Car en réalité, au regard de l'histoire de Pétrus Gonsalvus, ce conte, raconté aux jeunes enfants, incarne l'humanité de notre espèce à travers ses singularités. À la cour de Catherine de Médicis, il se murmure que le couple, aussi étrange soit-il, est heureux. L'intelligence de Pétrus, sa douceur, sa reconnaissance, tout a contribué au bonheur du couple qui, très vite, donne naissance à 7 enfants. Les premiers enfants semblent ne pas avoir hérité des traits de leur père. Mais bientôt, des enfants hirsutes voient le jour. Les historiens croient savoir qu'au moins 4 enfants de ce couple, devenu mythique bien malgré lui, souffrent de la même maladie congénitale que leur père. Car derrière ce mystère d'hirsutisme non élucidé au XVIe siècle, se cache en réalité une maladie. Et c'est un autre tableau. Un tableau de 1580 présentant Pétrus Gonsalvus dans un habit sobre de cour qui documente pour la première fois ce dérèglement des mutations génétiques se manifestant chez l'homme ou chez la femme par une pilosité envahissante sur une partie du corps ou sur sa totalité. Pétrus Gonsalvus, peint à la cour de France, est le premier cas documenté d'hypertrichose de notre histoire. En 1589, Catherine de Médicis meurt à son tour. Pétrus comprend que, sans protecteur, la disgrâce menace sa famille. Il sait qu'il doit quitter la cour. 2 ans plus tard, Pétrus et sa famille rejoignent l'Italie où, à Parme, le duc de Farnèse l'a assuré de son soutien. En réalité, ce que Pétrus et sa famille ignorent encore, c'est que le duc de Farnèse va cultiver la curiosité malsaine des foules. Considérés comme des animaux de compagnie ou des bêtes de foire, les Gonsalvus sont exposés au regard de tous comme des bêtes curieuses. On les exhibe ou on les peint, parfois, pour agrémenter les murs et la distraction de quelques familles privilégiées. Et ce qui se joue ici est étonnant. Étrangement, l'histoire de Pétrus se répète. Lui qui, enfant, était arraché à sa famille et à son île, va voir son destin et celui de sa famille basculer de la même manière lorsque l'un de ses enfants va lui être arraché. Le duc de Farnèse décide d'offrir à sa maîtresse l'une des filles de Pétrus, Antonietta. La famille est décimée, brisée à nouveau. L'histoire ne nous dit pas ce que devint Pétrus et son épouse. Nous savons qu'il meurt vers 1618 à Capodimonte, au nord de Rome, sur les rives paisibles du lac de Bolsena. L'histoire ne nous livre que peu ou pas d'informations sur ses enfants, si ce n'est un petit tableau de 50 cm sur 50 cm peint par une artiste italienne du XVIe siècle. Le tableau représente une enfant, mi-homme, mi-animal, un délicat diadème de fleurs dans les cheveux portant une robe de cour de facture noble, brodée de soie à la mode du XVIe siècle. Sous le pelage, les yeux sont tendres, le regard perdu, indicible, mais il transmet une douceur palpable. Dans ses petites mains, qui n'ont pas de poils, l'enfant tient un manuscrit. On peut y lire ceci. Don Pietro, un homme sauvage découvert dans les îles Canaries, a été transporté chez son Altesse Sérénissime Henri, roi de France, et de là, chez son Excellence, le duc de Parme. Moi, Antonietta, je viens de là, et je suis tout prêt aujourd'hui à la cour de Dame Isabella Pallavicina, l'honorable maréchal de Soragna. Un homme sauvage, Don Pietro. Petrus Gonzalvus. Le tableau est signé Lavinia Fontana, une peintre italienne connue aussi sous le nom de Lavinia Zappi. Une femme, peintre, née à Bologne, dans le nord de l'Italie à la fin du Moyen-Âge. Une des premières femmes artistes à honorer des commandes d'œuvres publiques à des fins sacrées ou profanes. Et si très probablement ce tableau est l'œuvre d'une commande, à travers ses coups de pinceau, l'artiste révèle les liens de douceur qui l'unissent à l'enfant. Au-delà de l'apparence, c'est la bienveillance qui frappe d'emblée lorsque les yeux se posent sur la toile. L'universalité de notre humanité est représentée dans la douceur de ce regard au milieu d'un visage hirsute, à l'aspect spectaculaire, inspirant les mythes et les créatures légendaires. Sur ce tableau mystérieux, ce petit tableau de 50 cm sur 50 cm, il s'agit bien d'Antonietta, la fille de Petrus Gonzalvus, offerte à la maîtresse du duc de Farnèse. Cette histoire étonnante inspira le célèbre conte La Belle et la Bête. C'était leur hache d'un petit tableau bien mystérieux. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Pénélope et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.